Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes. Et puis 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou, comme chaque mercredi. Le patronat doit en faire plus pour promouvoir les femmes en entreprise, nous dira-t-il. 19h20, le grand débat du Club des Idées, avec ce soir un grand entretien exceptionnel avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Il nous parlera évidemment de l'économie française. Pourra-t-elle rebondir? Faut-il craindre une inflation, une hausse des prix? La question de la dette aussi, faut-il la rembourser ou non, comme on l'entend parfois? Il occupe un poste hautement stratégique. Il nous livrera notamment sa vision pour l'économie française. Et puis on parlera aussi de son parcours. Le journal d'abord avec Christophe Lamarre. 19h, bienvenue sur le coup d'Europe 1.
L'exécutif continue de croiser les doigts pour que cela tienne. Trois départements devraient passer en mode freinage d'urgence, l'Aube, la Nièvre et le Rhône. Le gouvernement peut-il tenir sa stratégie? Jean-Rémy Baudeau dès le début de ce journal.
En Ile-de-France, la situation n'est pas loin d'être hors de contrôle. Inquiétude dans les hôpitaux parisiens où le nombre d'entrées en 24 heures n'avait jamais été aussi élevé depuis la première vague.
Le gouvernement qui annonce un renforcement des contrôles pour vérifier si le télétravail est bien la norme dans les entreprises. On a déjà appliqué un autre tour de vis à la cantine désormais, c'est seul à table.
Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle en 2022, le président des Hauts-de-France détaille son projet chez nos confrères du Point.
Trois anciens hauts dirigeants de McDonald's France et Europe en garde à vue. La justice les soupçonne d'avoir largement minoré le revenu imposable de la filiale française du géant américain via une mystérieuse convention. Et puis France-Ukraine ce soir au Stade de France, début de la campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar.
La météo, Anissa Haddadi, avec des nuages, mais du beau temps demain.
Oui, c'est ça, nous avons des valeurs de saison côté thermomètre et ça fait du bien, la douceur est au rendez-vous. Mais dans le ciel, vous le disiez, un petit peu plus de nuages, une perturbation peu active qui va apporter seulement quelques gouttes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'exécutif misait sur une troisième voie pour freiner l'épidémie et ce soir, les choses se compliquent un peu pour lui. L'épidémie s'emballe, l'Aube, la Nièvre et le Rhône pourraient rejoindre les 16 départements confinés, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, trois nouveaux départements, peut-être bientôt confinés, annonce faite par Gabriel Attal, le Rhône, l'Aube, la Nièvre. Des concertations devaient débuter dans l'après-midi. Une réponse à une situation qui se tend, selon le porte-parole du gouvernement.
Partout sur le territoire, l'épidémie s'accélère. Le 3 mars dernier, ici même, je parlais devant vous de semaines de gros temps à venir. Nous y sommes.
Un gros temps qui menace aussi une dizaine d'autres départements comme le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Orne, des zones où l'incidence est la plus forte. Le gouvernement se place une nouvelle fois dans sa stratégie territorialisée avec un espoir que ces mesures de semi-confinement fonctionnent réellement.
Je ne vous renverrai pas aux déclarations qui ont été formulées par y compris des grands scientifiques qui le disent. Si ces mesures sont pleinement appliquées, elles auront un effet sur l'incidence dans notre pays, elles auront un effet sur les entrées en réanimation dans notre pays. La priorité aujourd'hui, c'est que ces mesures soient appliquées.
Ce sont donc bientôt une vingtaine de départements en mesures renforcées sur le territoire. L'exécutif se laisse un peu de temps pour apprécier l'efficacité de ces restrictions. Mais face à la situation dans les hôpitaux, le gouvernement n'exclut pas de devoir renforcer les mesures, notamment en Ile-de-France.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, le gouvernement qui ne parle pas encore de fermer les écoles, mais Gabriel Attal n'exclut pas de le faire si la situation continue de se dégrader. Les médecins, comme les spécialistes, ne sont pas très optimistes.
Jamais le nombre d'arrivées n'avait été aussi haut depuis la première vague, dit Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Mais sur le plan national aussi, la situation se complique. Plus de 4630 malades sont en réanimation, des hôpitaux sous tension. Et malheureusement, ça va durer. C'est ce que nous explique Pascal Crépet, épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique à Rennes.
Les 15 jours à venir sont déjà tracés, dans le sens où les personnes qui vont arriver à l'hôpital en Ile-de-France et dans les autres départements confinés ont déjà été infectées. Donc ces personnes-là vont continuer de remplir les hôpitaux et les services de réanimation, et donc les tensions vont continuer de s'aggraver. Si, par chance, ce nouveau confinement est efficace, on devrait voir le haut du pic d'ici une quinzaine de jours, mais malheureusement, une fois qu'on est en haut du pic, il faut encore le redescendre, et donc la tension hospitalière va continuer d'être très dure pendant cette redescente du pic, et donc c'est le mois à venir qui risque d'être compliqué.
Pascal Crépé, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Il était avec Anne Le Gall. Et puis on apprend que pour freiner l'épidémie dans les départements confinés, les rassemblements de plus de 6 personnes à l'extérieur seront désormais interdits. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur.
Le gouvernement qui demande un effort aux Français, il demande aussi un effort aux entreprises.
Oui, le protocole est applicable depuis aujourd'hui. Et dans les restaurants, fini les déjeuners à plusieurs ou même à deux. Désormais, c'est seul à table, sans les collègues. Reportage au siège d'une grande entreprise à La Défense avec Élise Dangean.
Quand il n'y a plus de plateau, ça indique que la jauge est atteinte, donc on n'accueille plus de convives à l'entrée du restaurant.
Dans le restaurant inter-entreprise de la Tour Égée, à La Défense, le nouveau protocole est déjà en place et pour cause, c'est Elior, l'un des plus grands noms de la restauration collective, qui gère le lieu. Un salarié pour 8 mètres carrés, ça veut dire ici 102 personnes maximum en même temps. La salle est énorme et les salariés comme Paul, ingénieur, tentent tant bien que mal de manger ensemble.
Maintenant, nous, on s'organise justement pour, au lieu de regarder pour trouver une table, on s'organise pour trouver 4 tables qui permettent de recréer la convivialité.
Sauf que cette technique ne fonctionne pas à tous les coups. Plus de table libre pour Emmanuel qui a dû déjeuner plus loin.
Et ben avec les nouvelles restrictions sanitaires, j'étais séparée de mes collègues aujourd'hui. Et j'ai mangé toute seule comme une pauvre malheureuse.
Quitte à manger seule, certains préfèrent manger à leur bureau. Le protocole recommande d'ailleurs la mise en place de paniers repas. C'est le cas ici. Et pour Patrick Boisseau, directeur de marché au sein d'Elior, c'est l'offre parfaite.
Elle s'adresse aux personnes qui vont venir, qui veulent limiter absolument leur point de contact. Et après se restaurer dans leur bureau, ou là ici sur le parvis de La Défense, puisqu'on a la chance d'avoir ce grand parvis à côté.
Et je peux vous dire que ce midi à La Défense, beaucoup de salariés ont préféré manger dehors plutôt que dans leur entreprise.
Bah oui, ça permet d'être entouré, d'être avec les gens, de les voir à défaut de pouvoir s'en rapprocher. Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
19h06, il en parlait souvent, cette fois ça y est, c'est officiel, Xavier Bertrand est donc candidat à la présidentielle en 2022.
Le président des Hauts-de-France le dit chez nos confrères du point, il en profite pour parler de son projet. Xavier Bertrand, qui veut donc prendre de l'avance sur les autres ténors de la droite et surtout, il décide de ne pas attendre les régionales. Clairement, Mickaël Darmon, Xavier Bertrand, veut prendre tout le monde de vitesse.
Oui, et également, il veut taper fort. Je serai candidat et précise-t-il, je ne participerai pas à une primaire. Je m'adresse directement aux Français. C'est un pavé donc dans la mare, dans cet entretien qui en compte plusieurs. Bertrand prône un changement de régime fondé sur ce qu'il appelle la République des territoires, car le centralisme parisien incarné par Emmanuel Macron, selon lui, a échoué. La pratique macroniste, dit-il, c'est une centralisation et une verticalité qui étouffe et conduit l'État à l'impuissance. Bertrand veut gouverner par référendum pour redonner une dimension gaullienne à un mandat qui sera, dit-il, un mandat unique afin de ne pas se préoccuper de sa réélection. Un programme qui veut parler au peuple de la grande droite, qui va du Rassemblement national jusqu'au Modem. C'est aussi là que Xavier Bertrand doit donc gagner pour pouvoir gagner également, remporter la région des Hauts-de-France, car la roue de l'Élysée passe par le Nord. Xavier Bertrand doit tout d'abord être réélu président de la région pour démontrer à son camp sa capacité à battre le Rassemblement national.
Merci Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Xavier Bertrand, qui ne s'exprimera pas avant dimanche, il sera l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1, CNews et Les Échos. Ce sera dimanche donc sur l'antenne d'Europe 1 à 10h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h10. McDo a-t-il triché sur ses impôts payables en France? 3 anciens hauts dirigeants sont toujours en garde à vue ce soir.
Ils sont entendus par les policiers spécialisés dans la lutte contre les infractions fiscales. Tout part d'une convention signée entre McDonald's France et la maison mère basée aux États-Unis. Et à l'arrivée, Gladys Laffitte, beaucoup d'argent potentiellement évaporé.
Oui, le fisc français espère bien récupérer entre 300 et 600 millions d'euros, voire 1 milliard d'euros selon le Canard enchaîné. De l'argent qui aurait échappé à l'impôt en France, car envoyé directement aux États-Unis, au siège du groupe McDonald's, situé dans l'État du Delaware. Précision importante, car il s'agit d'un paradis fiscal. C'est l'un des accords de cette fameuse convention signée entre McDonald's France et la maison mère américaine en 2009, qu'une partie des bénéfices de la filiale française partent directement outre-Atlantique. Des ex-dirigeants vont donc devoir s'expliquer sur le circuit qu'a emprunté cet argent, notamment l'ancien PDG de McDonald's Europe et l'ancien PDG de l'enseigne France. Ils ne sont plus en poste aujourd'hui. De son côté, McDonald's France explique qu'elle a payé tous ses impôts dus à l'État français conformément aux législations en vigueur, mais aussi un impôt sur les sociétés cumulées de plus d'un milliard d'euros en France entre 2009 et 2013. L'enseigne explique aussi qu'elle collabore avec la justice et les autorités compétentes.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. L'État peut se montrer généreux. Oui, ça arrive. Il va faire un geste en faveur du château de Chantilly.
Oui, une aide exceptionnelle de 4,5 millions d'euros. Elle devrait permettre au domaine de couvrir une partie de ses pertes liées à l'absence de visiteurs en pleine crise sanitaire. Son administrateur avait lancé un appel à l'aide face à une situation de quasi-faillite.
Le football. La France entame sa campagne pour les qualifications au Mondial 2022 face à l'Ukraine.
Et oui, on se souvient que les Bleus s'étaient largement imposés 7-1 lors de leur dernière confrontation. Bon d'accord, c'était un match amical. Alors on pourrait croire que les Bleus vont se promener contre les Ukrainiens. On se trompe, Cyril Lamorinerie, non ?
Oui, c'était vraiment une rencontre à part. La formation dirigée par l'ex-Ballon d'Or Andrei Shevchenko était alors décimée par le Covid-19. L'Ukraine avait même dû inscrire son entraîneur des gardiens sur la feuille de match, tellement il y avait d'absents. Du coup, le capitaine Hugo Lloris s'attend à une confrontation plus proche de celle vécue en 2013, lorsque les Bleus avaient arraché leur billet pour la Coupe du Monde au Brésil.
Notre match amical ne reflétait pas la vraie différence de niveau qu'il y a entre les deux nations. Ils ont beaucoup de qualité, on a beaucoup de respect pour eux. C'est un match d'ouverture pour les qualifications de Coupe du Monde et on aura ce devoir de résultat.
Face à la 24e formation mondiale qui a notamment battu l'Espagne, ce n'est pas rien. Les Français devront s'inspirer de leur succès contre le Portugal, leur match référence depuis la Coupe du Monde 2018. Didier Deschamps devrait aligner sa meilleure formation. Ils seront vraisemblablement 10 champions du monde dans l'équipe de départ, plus Adrien Rabiot, car l'Ukraine et la Bosnie sont sur le papier des adversaires plus dangereux que le Kazakhstan, que les Bleus iront affronter pour la première fois dimanche prochain. Au-delà de cette campagne de qualification, le sélectionneur compte aussi préparer l'Euro et lever les dernières incertitudes sur la prochaine liste des 23.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1 en direct du Stade de France. Et puis un autre match qui nous intéresse, c'est le quart de finale aller de la Ligue des Champions féminine entre le PSG et Lyon. C'est un sacré choc. On va atteindre l'heure de jeu et toujours 0-0 entre les Parisiennes et les Lyonnaises.
Et on vous tient au courant, effectivement, si il y a ouverture du score d'un côté d'ailleurs comme de l'autre. Merci Christophe Lamarre. À demain 18h. La météo à Nice. Ça, moins de soleil mais de la douceur. On est sur un classique, j'ai envie de vous dire.
On est sur un classique de printemps, effectivement, avec le soleil qui nous fait du bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il a brillé dans un ciel complètement dégagé sur tout le pays. Alors ce qu'il faut retenir pour demain, c'est que le temps sera un petit peu plus gris qu'aujourd'hui, avec cette perturbation qui traverse le pays, qui sera très peu active. Nous aurons, allez, certainement quelques petites gouttes sur le centre, le bassin parisien et les Hauts-de-France, mais partout ailleurs, des nuages, des passages nuageux qui de temps en temps viendront masquer le soleil, mais pas de pluie, donc c'est pas de parapluie obligatoire du tout pour demain. Et puis sur les côtes de la Manche, on a le vent qui est de retour, vent de sud-sud-ouest qui va souffler jusqu'à 50 km/h. Les températures, elles sont douces, 0 à 10 degrés demain matin. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a fini avec les gelées matinales. Nous aurons 1 degré à Belfort, 3 pour Ajaccio et Quimper, 4 à Brest, 8 à Paris et Dunkerque et 10 à Perpignan. Et puis demain après-midi, pareil, de la douceur avec 12 à 22 degrés.
Merci Anissa, on vous retrouve
demain.
Demain,
bonne soirée.
Évidemment, avec le beau temps, le printemps. Merci à vous. Dans quelques secondes, 19h14, le grand entretien exceptionnel avec le gouverneur de la Banque de France. D'abord la carte blanche, comme chaque mercredi avec l'économiste Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors ce soir, c'est un coup de griffe que vous allez donner, on peut dire ça comme ça ?
Ah oui.
Suite
oui.
à la publication d'une grande étude que vous avez menée sur la création d'entreprises dans laquelle on découvre que les femmes sont trop peu nombreuses à porter de grands projets.
Oui, alors c'est une étude qu'on a menée pour la banque Neuflis OBC et on a regardé en effet où en était l'état de l'entrepreneuriat au féminin. Mais souvent on commet une erreur parce que on regarde les entreprises individuelles, les micro-entreprises, les professions libérales. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les sociétés. Et là, les résultats sont pas bons. Hein. En 2010, on avait 41 000 sociétés créées par des femmes. En 2018, on est tombé à 35 000. Donc vous voyez que ça recule, c'est un recul qui est net. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez moins de 20% des sociétés qui sont créées par des femmes. Et en plus, ces sociétés qui sont assez peu nombreuses connaissent une croissance plus faible que celles qui sont créées par des hommes. Alors, vous avez à la source de cela un problème de financement qui n'est pas d'ailleurs du tout un problème de financement bancaire parce que les crédits bancaires, en réalité, sont très largement automatisés. Donc, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes. En revanche, il y a une vraie difficulté d'accès au capital. Ce que l'on a découvert, c'est que 15% simplement des demandes en matière de capital investissement viennent de femmes, mais surtout 90% des gens qui composent les comités d'investissement dans les sociétés de capital risque sont des hommes, 90%.
Mais, bon, c'est assez scandaleux, dit comme ça, avec les chiffres que vous énumérez. Comment on l'explique et comment on peut faire bouger les choses ?
Alors, il y a deux explications. Il y a une première explication qui est une explication sociologique qui reste le patriarcat, c'est-à-dire l'inégale répartition des tâches ménagères dans les familles. Ça s'est aggravé avec la crise. On a vu que les femmes consacraient beaucoup plus de temps aux tâches ménagères que les hommes. Ben ça, ça a nécessairement des répercussions en matière d'entrepreneuriat. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est le fait que les créations d'entreprises, en règle générale, succèdent à une expérience réussie en entreprise. C'est ce que nous montrent les études.
Je vous vois venir.
Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les entreprises de plus de 10 salariés, 20% des femmes composent les comités de direction. 80% des comités de direction, ce sont des hommes. Et donc, beaucoup de femmes n'ont tout simplement pas eu l'opportunité d'accumuler une expérience suffisante en entreprise pour avoir la possibilité de créer une société qui va grandir. Vous voyez, non seulement c'est un problème évidemment moral, mais en plus, c'est complètement idiot du point de vue économique parce qu'on entre dans une période où on a absolument besoin de tout le monde pour reconstruire l'économie. On a besoin d'entrepreneurs, qui soient des hommes, qui soient des femmes. Eh bien, on va manquer, au fond, l'économie française, elle va manquer de cet atout potentiel.
Et puis, c'est contre-productif puisqu'on dit souvent que là où il y a des femmes, les performances économiques et boursières pour les entreprises cotées en bourse sont meilleures que les entreprises où il n'y a que des hommes. Voilà
absolument.
Qui est dit. Merci mon cher Nicolas,
merci
pour ce cri du cœur et ce coup de griffe.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose donc avec celui qui occupe l'un des postes les plus prestigieux de la République, le gouverneur de la Banque de France. Bonsoir François Villeroy de Gallo.
Bonsoir Julien Bugier.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous publiez également un ouvrage remarqué qui s'appelle « Retrouver confiance en l'économie » aux éditions Odile Jacob. On en parlera évidemment avec vous ce soir. Alors peut-être un mot d'abord sur votre mission. La Banque de France, elle en a plusieurs des missions. Fabriquer des billets, on va en parler. Assurer la sécurité des moyens de paiement des Français et la stabilité monétaire. J'ai une question assez précise à vous poser qui fait écho à des questions que nous ont posées des auditeurs. Et notamment la question que nous a posée Yves. Vous allez comprendre pourquoi je vous la soumets. On écoute Yves.
Je m'appelle Yves et j'ai 80 ans. Quel est le rôle exact de la Banque de France puisqu'il existe maintenant une banque européenne ? C'est la question que je pose effectivement au gouverneur. J'imagine qu'il a beaucoup d'activités, mais on ne sait plus très bien lesquelles maintenant.
Voilà. Bon, il y a un peu de malice dans cette question.
Non,
c'est
non,
vrai.
Mais c'est une question tout à fait légitime à laquelle je vais répondre.
Voilà, je complète
un peu. C'est d'ailleurs, pour tout vous dire, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre pour expliquer ce que nous faisons, les femmes et les hommes de la banque. Je précise que c'est 9500 personnes sur l'ensemble du territoire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toujours une Banque de France alors qu'il y a l'euro ? Parce que l'euro repose sur un système fédéral. C'est-à-dire qu'il y a une Banque centrale européenne à Francfort, dont la présidente est Christine Lagarde, une Française, et puis 19 banques centrales nationales correspondant aux 19 pays de l'euro qui font une bonne partie du travail, dont la Banque de France. Et donc, notre travail, c'est essentiellement deux choses. Depuis d'ailleurs que nous avons été créés, c'est la monnaie. Et le fait que les Français aient une bonne monnaie, l'euro aujourd'hui, ça veut dire aussi imprimer les billets, vous l'aviez dit. Nous le faisons à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand.
Toutes les banques nationales impriment des billets ?
Ah non, alors il se trouve que la Banque de France a la plus grosse imprimerie de billets de ce que nous appelons l'eurosystème, ce système fédéral. Et,
c'est pas pour ça qu'on est plus riche que les autres, mais on en imprime plus que les autres.
Non, on a un outil très compétitif dans lequel on investit. Et puis il y a une deuxième grande mission depuis l'origine. La Banque de France a été créée en 1800 par Bonaparte, qui est de veiller à ce que les Français et les entreprises aient accès à des financements dans des conditions sûres.
Oui.
Donc nous surveillons les banques et les assurances, et puis nous avons toute une mission sur le terrain, sur la gestion du surendettement, l'accès des PME au crédit, et donc beaucoup de ceux qui nous écoutent probablement ont affaire à la Banque de France, ou peuvent recourir à nos services.
Et vous êtes d'ailleurs vous-même membre du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne.
Absolument.
Vous participez...
Pour tout vous dire, j'avais une réunion du Conseil des gouverneurs aujourd'hui même. Ça se passe en visio, mais je raconte un peu ça dans ce livre. C'est autour de la table, chacun apporte ses idées, c'est aussi ce qu'apporte la Banque de France.
Alors, l'une des grandes missions de la Banque Centrale Européenne, c'est évidemment la maîtrise de l'inflation. Je voudrais vous entendre sur ce point, parce qu'il y a une inquiétude en ce moment sur le risque inflationniste, c'est-à-dire voir les prix grimper très vite et très fort. C'est la crainte que relaient beaucoup d'économistes, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. D'abord, est-ce que vous y croyez, vous, à ce risque inflationniste ?
Non, il n'y a pas de risque inflationniste en Europe. Alors, vous l'avez dit, il y a un débat aux États-Unis. Mmh. Et la situation est un peu différente aux États-Unis, parce que la reprise après Covid y est plus avancée. Et puis, comme vous le savez, le nouveau président et l'administration Biden viennent de mettre en place un paquet budgétaire absolument massif, 1 900 oui. milliards de dollars. Certains économistes disent qu'il est surdimensionné, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais ce soutien peut provoquer une accélération des prix aux États-Unis. Et après, il y a tout un débat pour savoir si cette accélération va être temporaire ou durable. Mais la situation de l'Europe est complètement différente. Nous sommes au début de la reprise, oui. on en parlera oui. sans doute. L'inflation en France reste inférieure à 1%, à 0,9%. Comme vous le savez peut-être, je le précise pour nos auditeurs, notre objectif, c'est 2% à moyen terme. On est encore en dessous, donc on va maintenir des taux
mais
d'intérêt très bas.
Mais beaucoup d'économistes quand même disent, notamment chez nous en France, que cette inflation en Europe, elle peut atteindre les 2% et en France en particulier assez rapidement. Alors, ça ne sera pas
écoutez,
une inflation galopante.
Prévisions, mais... dans les prévisions de la Banque de France et de la BCE, l'inflation dans les deux ans qui viennent passerait un peu au-dessus oui. de 1%, mais il y aura peut-être des passages temporaires à 2%. Mais en moyenne... Nous oui. ne voyons pas de risque de surchauffe inflationniste.
L'objectif
et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on va maintenir des oui. taux d'intérêt bas et des conditions de financement très favorables, y compris pour les crédits immobiliers ou les PME.
C'est d'ailleurs l'objectif non avoué de la Banque Centrale Européenne, hein, c'est de maintenir une inflation aux alentours de moins de 2%, en tout cas moins de 2%.
Notre objectif, ce point est très important. Alors vous savez, quand on fait le métier que je fais, on essaye d'être précis dans les termes. Notre objectif, il est tout à fait explicite. C'est d'avoir une inflation en moyenne proche de 2%.
Bien. D'ailleurs, il y a un élément intéressant. Je pose la question un peu par esprit d'escalier, mais la BCE nous dit qu'il n'y a jamais eu autant de billets en circulation alors qu'on les utilise de moins en moins pour payer. Mystère. Où sont ces billets?
Alors, c'est un paradoxe.
Est-ce que ça veut dire que les Français les cachent sous les matelas?
Et là aussi, dans le travail que fait la Banque de France, on a parlé de l'impression des billets, mais il y a ensuite la distribution des billets sur l'ensemble du territoire par notre dispositif de caisse. Et ce que nous constatons, c'est que le billet est de plus en plus détenu, mais de moins en moins utilisé dans les transactions. C'est le développement du paiement sans contact qu'on a vu aussi avec la crise Covid. Et donc, c'est une encaisse de précaution qui reste chez les ménages européens. Et aussi, et ça semble être une part très importante de la demande de billets, en dehors de la zone euro, que ce soit en Europe centrale, en Afrique du Nord, c'est d'ailleurs une des preuves du succès de l'euro, c'est que les citoyens en dehors de l'euro, les habitants des autres pays veulent détenir notre monnaie. Alors, parce qu'ils ont confiance.
Plein de sujets à aborder. On va marquer une première pause. Le contexte sanitaire, l'impact économique, les prévisions de croissance, la question du remboursement de la dette. Et puis, je voudrais aussi votre regard sur la stratégie française. Vous m'en parlerez. Une petite question, tiens, comme ça, en passant. Qu'est-ce qu'a fait la Banque de France de tous ces francs qui ont arrêté de circuler il y a 10 ans?
Ah, ils ont été largement détruits. Hein, parce qu'il y avait des billets, mais tous ceux qui en détenaient ont pu les échanger contre des euros.
Mais ils ont été détruits, ils n'existent plus.
Alors, vous savez, un billet de banque, c'est comme toute chose, ça vieillit aussi physiquement. Donc vous ne pouvez pas le garder indéfiniment.
Bien, merci, vous restez évidemment avec nous. On marque une pause, on se retrouve avec vous, monsieur le gouverneur de la Banque de France, dans quelques instants, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30 et ce soir, vous l'avez compris dans le débat du Club des Idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. On parlait à l'instant de l'impact économique, de l'inflation, évidemment, de la crise sanitaire. Est-ce que l'aggravation de la situation sanitaire qu'on connaît en ce moment depuis quelques jours va amputer le redémarrage de l'économie et donc remettre en cause vos prévisions de croissance notamment ?
Alors, un petit mot sur nos prévisions de croissance que nous faisons, je précise, de façon totalement indépendante.
Absolument.
La Banque de France est indépendante du gouvernement ou de toute pression politique. On a connu l'année dernière la pire récession depuis la guerre, à moins 8% en France. On devrait connaître cette année un fort rebond. Notre prévision publiée il y a une semaine, c'est plus 5,5% de croissance. Ça serait la plus forte croissance depuis le premier choc pétrolier, depuis 1973.
Mais qui arrive après une telle baisse.
Oui, mais je crois que c'est important de voir qu'il y a cette capacité de rebond, et ça serait d'ailleurs une croissance nettement supérieure à la moyenne européenne. Et
c'est vrai,
c'est très important de le noter. Notre estimation au jour d'aujourd'hui, je le dis à votre micro, c'est que les dernières restrictions ne remettent pas en cause cette prévision, parce qu'elle était relativement prudente. Nous avions prévu un maintien des restrictions sanitaires à peu près jusqu'à juin, oui. Et ensuite une levée progressive.
Mais donc vous aviez globalement anticipé sur de nouvelles mesures sanitaires, parce que l'Île-de-France...
On n'avait pas anticipé de nouvelles mesures sanitaires, mais je crois que nous avons collectivement appris à travailler en nous protégeant. Alors, il y a des secteurs qui souffrent beaucoup, évidemment l'hébergement, restauration, le tourisme, l'aéronautique, et il y a beaucoup d'entreprises pour qui ce n'est pas facile. Mais globalement... D'abord, les dispositifs publics de soutien fonctionnent bien et il y a heureusement beaucoup de secteurs qui sont assez proches de la normale dans l'industrie, dans le bâtiment et beaucoup de services.
Parce que l'Île-de-France, qui est aujourd'hui en partie confinée, avec la fermeture à nouveau des magasins non essentiels, ça représente, je crois, un tiers de l'économie française. Un tiers de l'économie française, c'est évidemment colossal.
Ça dépend des mesures, c'est entre 20% et un tiers. Mais heureusement, l'Île-de-France n'est pas totalement arrêtée sur le plan économique. La plupart des Franciliens continuent à travailler en télétravail. Ce qui est... Il faudra d'ailleurs revenir sur un des progrès de cette crise, c'est que nous avons appris à mieux utiliser le numérique.
C'est un progrès, mais, selon vous ? Le télétravail est un progrès ?
Vous posez une question, évidemment, qui nous touche tous. Je crois que c'est un progrès dès lors que ça redevient une liberté. Aujourd'hui, c'est une obligation. Mais il est clair qu'après, on télétravaillera plus qu'avant. Moi, je développe dans ce livre le fait qu'après la crise, je crois que nous avons l'opportunité... Ça n'enlève rien de la difficulté de la crise. Mais nous avons l'opportunité de reconstruire une économie meilleure. Je souligne trois dimensions. Plus numérique, ça veut dire plus de liberté. Plus écologique, ça veut dire plus de qualité de vie. Et puis plus qualifié, il ne faut pas qu'on oublie la bataille des compétences pour les jeunes, l'apprentissage, la formation professionnelle. Ça, c'est la clé de la croissance française.
Je vous pose cette question.
Il y a ces trois plus possibles.
Je vous pose cette question, François Villeroy de Gallo, parce que je sais que la question de l'emploi est très importante dans votre état d'esprit depuis toujours.
Et la formation professionnelle.
Et c'est vrai qu'on s'apprête à vivre une crise sociale sans doute très très importante. L'INSEE a annoncé quasiment 1 million de destructions d'emplois sur l'ensemble de l'année et peut-être plus à venir. Les plans sociaux se multiplient. Est-ce que le télétravail, à l'issue de cette crise, ne va pas détruire des emplois ? C'est-à-dire que des entreprises sont en train de s'apercevoir qu'ils ont peut-être des salariés qui ne servent pas autant qu'ils le pensaient.
Il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Il y a d'abord qu'il y a la photo aujourd'hui en termes d'emploi et de chômage. Dans les prévisions que nous avons publiées la semaine dernière, les choses se passent moins mal sur l'emploi qu'on ne pouvait le craindre. Et le taux de chômage devrait rester sous les 10% tout au long de l'année 2021 et puis ensuite recommencer à baisser. Donc l'économie française a perdu...
Sous les 10%.
Sous les 10%. Oui, 9 et quelques. C'est trop, bien sûr. Mais traverser la pire récession de l'après-guerre en ayant une montée très limitée du chômage, je crois que c'est une...
C'est grâce aux mesures d'accompagnement,
Les mesures d'accompagnement ont beaucoup aidé, en particulier le chômage partiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les entreprises ont diminué leur nombre de salariés moins qu'on ne le craignait. Par contre, elles ont diminué le nombre d'heures. Ça, c'est l'effet du chômage partiel. Mais au fond, le dispositif public, il a permis, de maintenir un maximum d'entreprises à flot et à l'intérieur de ces entreprises, de maintenir le lien avec leurs salariés. Ça, je crois que c'est deux acquis. Alors ensuite, après... Je ne pense pas que le télétravail diminuera ou détruira des emplois en soi. Maintenant, on va retrouver en sortie de crise ce qui est la clé du succès français, c'est les compétences. Si vous rappelez la situation avant la crise, la France avait créé 1 million net d'emplois, je le souligne beaucoup dans ce livre, quelquefois nous sommes trop modestes sur nos succès, entre 2016 et 2019, 1 million net d'emplois. Et on l'a peut-être oublié, le principal frein à l'époque à la croissance française, c'était les difficultés de recrutement des entreprises. Oui. Nous avions encore beaucoup de chômeurs, mais les entreprises n'arrivaient pas à recruter. Alors là, il y a une évidence, c'est la bataille des compétences.
Alors,
c'est aussi, d'ailleurs, la meilleure façon de donner des chances aux jeunes, y compris les plus défavorisés, c'est de les former.
François Villeroy de Gallo, la clé de cette relance, on sait que c'est la consommation. Faire consommer les Français, ça a toujours fonctionné comme ça avec la croissance française. Et il y a cette épargne qui dort aujourd'hui sur nos comptes, qu'on estime à 200 milliards d'euros. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour inciter les Français à consommer, si vous aviez une baguette magique ou si le gouvernement en avait une? Et puis, il y a cette idée qui commence à émerger, cette petite musique, selon laquelle il faudrait taxer l'argent qui dort. C'est une bonne idée, ça, de taxer l'argent qui dort?
Alors d'abord, je n'ai pas de baguette magique, Julien Bugier, je le dis, mais je crois que c'est important de répondre aux questions des Français et de partager un certain nombre de réalités économiques. Le volume de cette épargne supplémentaire Covid, c'est un peu moins que les 200 milliards que vous avez cités. C'est 110 milliards à la fin de 2020 et On devrait ajouter la moitié cette année, en 2021, donc compter 160. C'est beaucoup. C'est une espèce de réserve de croissance de 6% du PIB. Ensuite, vous l'avez dit, pour qu'elle se transforme en consommation, la clé, c'est la confiance des particuliers, hein, oui. La confiance des consommateurs. J'ai appelé, c'est le titre hein, de cet ouvrage, « Retrouver confiance en l'économie ». On va passer du soutien public à la confiance privée. Alors, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui allons décréter la confiance des Français. C'est eux qui décideront. Je crois que l'élément clé, ce sera la levée des restrictions sanitaires, l'amélioration de la situation. Mais l'absence de taxation est un élément très important de cette confiance. Je crois qu'il ne faut pas augmenter les impôts en France. Ils sont déjà suffisamment élevés. Au passage, j'ajoute que je crois qu'il ne faut pas les baisser non plus. Oui. Nous n'avons plus les moyens de ces baisses d'impôts non financées. Mais la stabilité fiscale peut alors, faire partie de la confiance.
Très intéressant ce que vous dites, François Villeroy de Gallo, parce que ça nous emmène sur la question de la dette. Cette dette, vous dites qu'il faut la rembourser, qui dépassera d'ailleurs les 120% du PIB en 2021. Certains experts prédisent même 145% du PIB d'ici 25 ans. C'est ce qu'avait dit Jean Arthuis avec sa commission d'experts indépendants. Ça représente 2800 milliards d'euros. Il faut que les Français se rendent compte ce que ça représente. Hein. 2800 milliards d'euros. Donc c'est une dette qu'il faut rembourser, parce que c'est la règle du jeu, dites-vous. Alors, comment est-ce qu'on la rembourse, cette dette? Si, un, on n'augmente pas les impôts, si la croissance reste dans des zones de 1, 2, même 2,5%, la croissance, ça n'avait jamais permis de rembourser une dette, donc ça veut dire qu'il faut réduire les dépenses publiques. Et où est-ce qu'on va le chercher, cet argent?
Il faut combiner trois ingrédients. Il faut d'abord en exclure un, c'est l'illusion de l'annulation. Parce que là aussi, c'est clair, la confiance, hein, je reviens tout de suite sur le mot. Imaginez, Julien Bugier, que vous me prêtez 100 euros... et que moi je vous dis, là, oui. Comme ça...
Mais mes actifs,
je ne vais pas vous les rembourser.
Mes actifs ne sont pas ceux de la Maison France.
Oui, enfin, quelqu'un à qui on ne rembourse pas sa dette, il ne vous prête plus pour l'avenir. Donc ça serait très grave pour la France.
Donc il faut
combiner trois ingrédients, c'est le temps, la croissance et l'efficacité des dépenses publiques. Le temps, c'est qu'il faudra du temps pour se désendetter. Je crois qu'il faudra commencer une fois qu'on sera sorti de la crise Covid, c'est-à-dire après 2022... Il faudra se donner une dizaine d'années. Il faut se donner une perspective assez longue.
Oui.
Parce que nous avons quelquefois un peu de mal à faire dans notre débat.
Mais qui paiera? Qui paiera?
Alors, qui paiera, c'est l'ensemble de l'économie française. Le deuxième composante, c'est justement la croissance qui va rapporter des recettes. Et on parlait tout à l'heure de la formation professionnelle ou d'autres réformes. Elles vont augmenter la croissance. C'est pour ça que c'est important de faire des réformes.
Vous savez très bien que malgré la croissance depuis 75 ans, depuis 1975, on est en déficit chronique.
C'est parce qu'il a manqué le troisième ingrédient, c'est qu'il faut qu'on recherche une meilleure efficacité de nos dépenses publiques. La France partage avec ses... Si on reste une minute là-dessus, la France partage avec ses voisins européens un modèle social auquel moi je suis profondément attaché, je le dis dans ce livre, là je dis mes convictions, et je crois que la plupart de nos concitoyens, c'est un bon modèle avec des services publics, avec de la redistribution, avec la sécurité sociale, c'est pas le même modèle que les Américains ou a fortiori des pays émergents. Gardons-le. Notre problème, c'est pas notre modèle social, c'est qu'il nous coûte beaucoup plus cher que celui de nos voisins européens. Vous allez en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, même en Suède, ils ont à peu près les mêmes prestations, mais ils ont beaucoup moins de dépenses publiques que nous.
Et alors, donc, où est-ce qu'on coupe dans les dépenses?
Il faut là-dessus, pour regarder l'ensemble des chiffres, il faut que nous arrivions à freiner la croissance de ces dépenses. Je ne dis pas du tout qu'il faut les couper.
Oui.
Je cite un certain nombre de chiffres dans ce livre. Si nous passions d'une croissance d'un peu plus de 1% par an à 0,5% ou encore mieux 0, là, nous commençons à nous désendetter. Donc, vous voyez, je ne parle pas de baisse. Après, ce n'est pas... à nous de choisir où se passent les économies. C'est un débat politique légitime. Je peux juste vous dire que c'est possible de faire fonctionner un service public avec des coûts moins élevés. J'ai une bonne nouvelle pour les Français, c'est que la Banque de France rend plus de services aujourd'hui tout en leur coûtant moins cher.
Et vous
voyez, c'est possible.
Et vous connaissez bien l'administration, puisque vous avez aussi travaillé au cabinet du ministre de l'économie.
J'ai passé beaucoup d'années dans le service public, mais aujourd'hui, voilà, je suis fier de vous dire que les hommes et les femmes de la Banque de France, ils sont arrangés pour être plus efficaces.
Bien, on en parlera justement de l'efficacité de l'administration, 19h40, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on poursuit notre entretien exceptionnel avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Entretien passionnant, on a encore plein de sujets abordés. Alors, on n'a pas toute la nuit, mais on a encore quelques minutes à passer ensemble, François Villeroy de Gallo. Et vous publiez ce livre, Retrouver confiance en l'économie, qui est une ode aussi à la pédagogie pour l'économie. Il faut, dites-vous, expliquer l'économie aux Français. Il y a un besoin et une envie de pédagogie. Alors justement,
il faut répondre à leurs questions. Les questions des Français sont légitimes. légitime. L'économie, ce n'est pas le monopole des économistes ou des spécialistes.
Et puis, ça nous concerne dans notre quotidien aussi.
Bien sûr.
Alors, on a posé la question à des Français. On s'est promené dans les rues cet après-midi et on leur a dit « Est-ce que vous savez à quoi sert la Banque de France ?» Vous allez voir les réponses.
Non, je ne connais pas du tout la Banque de France. Enfin, de nom, forcément, comme tout le monde, mais son rôle...
Qui n'a pas entendu parler de la Banque de France depuis le 19e siècle, au moins la fin du 19e siècle? C'est un monument français pour moi, voilà.
Elle joue un rôle de surveillance des marchés hein, et aussi de la monnaie. Mais elle a certainement d'autres attributions que j'ai oubliées.
Quand vous avez beaucoup de dettes et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous pouvez faire un dossier auprès de la Banque de France. On vous permet de repartir sur un meilleur pied.
Il me semble que la Banque de France doit obéir aux ordres de la Banque européenne. Voilà, c'est à peu près la seule chose que je sais en fait sur la Banque de France. Sinon, je vois pas trop exactement à quoi ça sert.
Voilà, propos recueillis par Zoé Pallier. Pas mal quand même,
non,
François Villeroy de
Gallo. Non, je trouve quand on ajoute ces diverses réponses, on a à peu près le kaléidoscope de nos missions. Je vais peut-être en ajouter une à laquelle nous tenons beaucoup et qui est récente. C'est ce qu'on appelle l'éducation économique et financière. Et ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions économiques. Il y en a encore plus dans ces temps de crise. Et puis chacun a des questions budgétaires aussi sur ses produits financiers, oui. Son épargne. Et nous avons beaucoup développé cette action depuis 2016. Nous avons créé une cité de l'économie à Paris qui est magnifique, malheureusement fermée pour l'instant. Mais son site est ouvert et tous ceux qui veulent voir l'économie de façon un peu ludique peuvent y aller. Il y a aussi le site de la Banque de France, il y a des ABC de l'économie. On a fait un site spécial Covid et l'économie. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est notre devoir démocratique aussi. La politique monétaire, même qui est le cœur de notre métier, ça peut être vu comme très austère et compliqué, mais j'essaie de l'expliquer dans ce livre. Il n'y a aucune raison que nous ne fassions pas l'effort d'expliquer cela de façon simple.
Bien.
Alors c'est un petit effort hein, pour les équipes de la Banque de France, mais j'espère que tous ceux qui iront voir sur les sites ou accessoirement qui liront ce livre considérons qu'on a réussi.
Bien. Alors, vous parliez du fonctionnement des salariés de la Banque de France. Vous disiez juste avant la pause, on a appris à mieux travailler. Et j'ai une question pour vous qui dépasse un peu le cadre de vos fonctions de gouverneur de la Banque de France. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été haut fonctionnaire, vous avez été directeur de cabinet à Bercy. Vous connaissez bien évidemment les rouages de l'administration et ses blocages. Vous avez été aussi banquier dans le privé, donc vous avez les deux casquettes. Est-ce que vous diriez que la France est aujourd'hui grippée par sa suradministration? On a parfois un peu l'impression, François Villeroy de Gallo, qu'on marche sur la tête. Alors, il y a eu l'épisode des masques, il y a aujourd'hui l'épisode des autotests, il y a l'épisode des vaccins, Sanofi, au pays Pasteur, qui n'a pas réussi à trouver son vaccin.
Je vais vous arrêter tout de suite. J'aime pas le discours, je vais le dire directement, c'est-à-dire que le problème de la France, c'est l'administration. La France a la chance d'avoir des fonctionnaires, et pas seulement les hommes et les femmes qui travaillent à la Banque de France, qui sont en général compétents, qui sont honnêtes et qui sont loyaux. Ça fait beaucoup de qualités. D'ailleurs, à l'étranger, on considère en général le service public, c'est un atout français. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on ne considère pas qu'il y a d'un côté la sphère privée qui est vouée à la performance, et puis de l'autre côté, le service public qui serait voué à l'immobilisme. Service public, performance, innovation, c'est des mots qui peuvent aller
et
ensemble.
Même le président de la République avait même lui-même semblé envoyer ce signal en disant « moi je vais faire bouger les choses parce que c'est vrai qu'il y a des blocages dans l'administration française et que parfois il y a des lourdeurs ».
Oui, je crois qu'il faut libérer l'initiative des managers, il faut leur confier des responsabilités, il faut leur confier aussi des enveloppes budgétaires qui peuvent être exigeantes mais qu'ensuite ils gèrent le mieux possible. C'est tout ça que nous avons fait à la Banque de France.
Et ça
moi
fonctionne.
Je crois profondément, alors je vais vous dire vraiment ma conviction tripale si vous me permettez le mot, je crois que le service public peut être un atout de la France. D'ailleurs quand vous regardez dans notre histoire, on parlait de Bonaparte tout à l'heure, vous prenez l'époque du général de Gaulle, le service public c'était considéré comme un atout français. Ben, à nous de le faire vivre, de le rendre performant, innovant. C'est ce que nous essayons de faire à la Banque de France, pour que le service public soit à nouveau un atout de notre économie. Mais pointons pas du doigt l'administration ou les fonctionnaires qui seraient responsables des problèmes français.
Alors, c'est une question qu'on vous pose régulièrement, mais qui fascine. Il y a une réserve secrète à la Banque de France, c'est la réserve d'or. 2400. Elle est bien protégée, on va dire. Elle est bien protégée, on va dire. Secrète car elle suscite des fantasmes.
Non, elle est bien protégée.
2436 tonnes d'or situées, je crois, à 27 mètres sous terre. C'est le quatrième stock national au monde derrière les États-Unis. Dites-moi si je dis une bêtise. L'Allemagne et l'Italie. Or, depuis les années 70, l'or n'a plus tout à fait le même rôle monétaire. Pourquoi conserver tout cet or?
Alors, l'or a joué un rôle historique très important et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une garantie. Mais il ne joue plus de rôle actif. Donc cet or, il appartient à tous les Français. Hein. Il n'appartient pas à moi ou aux salariés de la Banque de France, évidemment. 2436 tonnes, je vous le confirme, ça fait partie...
Mais ça sert à quoi ?
Ça fait partie des garanties qui inspirent confiance en la France. Il se trouve que la valeur de cet or ne cesse de s'apprécier parce que le cours de l'or a monté,
c'est
particulièrement
vrai.
Dans la crise de l'or. Donc le garder n'est pas un mauvais placement.
Et, voilà. Et ça peut pas, pardon ma question un peu naïve, mais ça ne peut pas permettre de rembourser un petit bout de dette parce que j'ai vu que ça correspondait à 5% du PIB, donc c'est déjà...
Oui, enfin que c'est exactement comme pour un particulier. Si pour rembourser vos dettes, vous vendez vos bijoux de famille, vous n'êtes pas enrichi pour autant. Hein. Mais je crois que la plupart, tous les pays que vous avez cités gardent leur stock d'or parce que c'est un bon placement aujourd'hui et parce que ça fait partie de la confiance. Ça joue un rôle symbolique très important. Hein. C'est vrai que très souvent, on m'interroge sur la Banque de France. Je vais vous donner un chiffre très simple. J'ai dit que la Banque de France était 9 500 hommes et femmes engagés sur le terrain, aux côtés des Français, avec les entrepreneurs. La garde de l'or dans ces 9 500, c'est 5 personnes.
5 personnes.
Donc c'est tout à fait marginal. Et pour autant, l'or est en grande sécurité, parce qu'il y a toute une série de dispositifs mécaniques et informatiques pour protéger l'or des Français.
Vous êtes un bon gestionnaire, évidemment, François Villeroy de Gallo. J'ai une dernière question à vous poser. Je recevais l'économiste Daniel Cohen à cette même place, qui a publié un ouvrage assez remarquable sur le rapport des Français à l'argent. Et on y apprend que les Français, plus que les autres Européens, estiment que pour être heureux, il faut avoir plus d'argent que le voisin. Comment vous expliquez cet état d'esprit qui, visiblement, est là encore très français ?
Nous sommes sensibles à l'égalité. Hein, je crois que Tocqueville a écrit il y a deux siècles que l'égalité, c'était une passion française. Je suis personnellement extrêmement sensible aux inégalités. Je crois qu'il faut lutter contre les inégalités excessives. Et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'égalité des chances et des jeunes. Après, le modèle social européen est une chance pour ça. Et si vous me permettez de conclure là-dessus, parce que c'est le dernier chapitre de mon livre. Et là, je dois dire que si je voulais exprimer un souhait, c'est que on voit l'Europe comme un modèle hérité du passé qui doit un peu raser les murs entre les États-Unis et la Chine sur les deux puissances émergentes. Non, je crois que ce que l'Europe porte avec son modèle social et maintenant environnemental, le reste du monde en a besoin. Le monde de 2021, totalement chaotique. Regardez les contestations de la jeunesse. Ils veulent plus d'égalité, ils veulent plus d'environnement. C'est l'Europe qui a la meilleure réponse. Donc portons ce drapeau haut et fort, mais tout en étant efficace dans notre économie et dans nos services publics.
Vous aviez écrit un ouvrage d'ailleurs sur l'Europe, me semble-t-il.
Oui. Moi, je suis un Européen convaincu. Je suis un Européen de pratique tous les jours. Hein, le Conseil des gouverneurs, etc. Mais l'Europe, c'est notre meilleure chance dans ce monde qui a besoin de nous.
Bien, merci infiniment. C'était passionnant. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France et auteur du livre passionnant. Vous en avez beaucoup parlé ce soir. Retrouvez confiance en l'économie aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Suite du Club des idées avec les archives, quand le passé éclaire l'actu. 3 minutes pour comprendre, c'est le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Zoé Pallier.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir avec vous, on revient 49 ans en arrière, en mars 1972, l'entrée en vigueur de la loi autorisant la contraception.
Oui, la loi Neuwirth, du nom de ce député gaulliste de la Loire, Lucien Neuwirth, surnommé Lulu la pilule par la presse de l'époque. Une loi votée en 1967, ce n'est que 5 ans plus tard, donc en 1972, que son décret d'application est promulgué. Les Françaises peuvent désormais prendre la pilule ou se faire poser un stérilet sans risquer une amende ou la prison. Une victoire pour le mouvement du planning familial et pour Neuwirth donc, qui avait enchaîné les interviews pour défendre sa loi, comme ici au micro Europe 1 d'André.
On peut estimer que le français est suffisamment conscient et évolué pour qu'il puisse accéder, comme l'anglais, l'allemand, l'américain ou d'autres nations, à cette liberté qui, en même temps, engage aussi une responsabilité.
Quelle a été l'opposition la plus forte à votre projet ?
Je crois que ce sont surtout des gens qui avaient des motivations d'ordre moral, voire religieux. Il est bien entendu que nous respectons les convictions de tout le monde, mais il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit à qui que ce soit parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas d'accord.
Oui, parce qu'à l'époque, Zoé, beaucoup de Français n'étaient pas favorables au contrôle des naissances.
Loin de là, et c'est chez les catholiques que l'opposition est la plus forte, un texte sème le trouble, l'encyclique du pape Paul VI. Elle qualifie, je cite, « d'intrinsèquement déshonnête toute méthode artificielle de régulation des naissances ». En 72, la question se pose alors dans les foyers catholiques, faut-il suivre cette encyclique au pied de la lettre ? Écoutez l'avis de Bruno, 25 ans, invité lors d'un débat sur le plateau d'Europe numéro 1.
Vous êtes de jeunes époux catholiques, cette décision du pape, est-ce que cela vous a troublé, perturbé ?
Bon, premièrement, votre débat me paraît trop sérieux. Alors, si vous voulez bien, on va respirer un peu. Alors, vous allez me poser la question. Est-ce que ma femme prend la pilule ou est-ce qu'elle ne la prend pas ?
Je ne la pose pas, mais puisque vous la posez...
Mais moi, je vous réponds. Moi, je suis chrétien. J'y crois. Hein. Mais je voudrais que les hommes aient une station verticale. Devant une encyclique, on ne se met pas à plat ventre. Je suis marié, je prends mes responsabilités.
Voilà, à mon sens, des paroles qui méritent d'être entendues.
Et puis à ses côtés, le gynécologue Pierre Simon qui insiste, la pilule est un outil de libération de la femme et une avancée scientifique majeure.
Aujourd'hui, on réussit à percer la plupart des mystères qui précisément président à la vie. L'acquisition de ces connaissances a été considérable.
Alors au passage, vous remarquerez qu'on n'entend que des hommes se prononcer sur le sujet. C'est symptomatique de l'époque. Neuwirth fait partie lui aussi des invités à ce débat. Voilà comme il le conclut.
Il faut dire la vérité, nous sommes des hommes du 19e siècle qui venons d'être projetés dans le 21e et le 20e n'est à mes yeux qu'une plateforme bouleversée de transition entre le monde d'hier et celui de demain.
Et depuis, évidemment, Zoé, la pilule s'est banalisée.
Oui, et ça s'est même fait assez vite. 2 ans plus tard, Neuwirth co-signe une loi avec Simone Veil. Désormais, la Sécurité sociale rembourse la pilule. Et pour les mineurs, plus besoin d'autorisation parentale pour s'en faire prescrire. Le slogan « Un enfant si je veux et quand je veux » semble entrer dans les mœurs. Et je vous ai parlé de Simone Veil. Et bien, quelques mois plus tard, c'est l'avortement qui devient légal à son tour.
Merci Zoé Pallier pour ces archives et ce récit. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h56 dans quelques secondes, Julien Pierce pour le rappel de l'info. Et puis Émilie Mazoyer, salut Émilie.
Salut Julien.
Quel est le programme ce soir?
Ce soir, on a en interview et en session, parce que c'est mercredi, donc acoustique dans musique, un artiste qu'on aime depuis 1997 dans son groupe Louise Attaque et en solo depuis 2010, c'est Gaëtan Roussel. Il vient de sortir son 4e album solo, Est-ce que tu sais ? C'est une merveille, et si vous ne le savez pas encore, vous allez le savoir ce soir dans Musique.
Ouais,
et
puis ça va nous donner la pêche.
Exactement.
Ouais, on en a besoin. Merci Émilie, on te retrouve dans quelques instants.
Merci,
tout de suite.
Merci Julien.
Merci de votre fidélité, le rappel de l'info, et nous on se retrouve demain 18h. Merci de votre fidélité, à demain.